Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous, c'est lundi 19h et comme vous le savez depuis 3 semaines, c'est le moment du RKS Foot Time Show, votre émission de débat 100% classico, Bundesliga, Première Ligue, etc. Mais surtout agrémenté d'une doublette de chroniqueurs complètement barge et moi-même, votre animateur conciliateur, je vais pas vous le cacher, je suis chaud comme une baraque à frites aujourd'hui, de retour de congé, mes deux acolytes sont là, un petit canari est en face de moi,
un salut petit canari.
Pierre. Enfin, vu le beau bébé, avec nous. Enfin,
vous,
c'est un beau bébé. Donc
vous regarderez sur Facebook la photo, on verra c'est qui est petit.
Comment ça va mon petit canari?
Eh ben écoute, ça va pas aussi bien que toi vu comme t'es bronzé en tout cas, mais écoute, ça fait plaisir de t'en voir.
Écoute, ça sera à ton tour. Et toi mon Kevin, comment ça va?
Écoute, ça va très bien, mais Melvin, bon retour à toi, ça fait plaisir de t'en voir dans le studio.
Eh ben ouais, ça fait plaisir d'être tous les trois. Un gros programme aujourd'hui messieurs, puisque dans une première partie, dans un instant, nous parlerons de l'Olympique de Marseille et de toutes ces rumeurs qui fusent sur le club. On parlera également de la Juventus, de la Première Ligue, mais aussi de la finale de la Coupe de France qui nous a régalé vendredi soir, messieurs.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Eh ben allez, on ouvre le programme avec Bichon au téléphone. Bichon, c'est Jérém, supporter marseillais. Déjà, Jérém, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là?
C'est bon, salut la team, je vous entends très bien.
Eh ben,
comment
super.
Allez-vous?
Ça va très bien et toi?
Ça va super.
Bon, Jérém, écoute, on voulait parler de toi, t'es supporter marseillais. Depuis quelques temps, il y a énormément de rumeurs qui fusent sur l'Olympique de Marseille avec Mourad Boudjelal qui, soi-disant, veut racheter l'OM. Mais finalement, à aucun moment, l'OM a dit qu'ils étaient vendeurs ou que McCour a dit qu'il voulait laisser le club. Toi, en tant que supporter, comment tu vois les choses? Est-ce que ça peut te déstabiliser? On donnera aussi notre avis derrière. Mais toi, en tant que supporter, qu'est-ce que tu ressens?
Bah, un mot aujourd'hui, quand il y a un mot, on entend Boudjelal parler de reprise de l'OM. Bah, voilà, Boudjelal, quand même, c'est une figure emblématique du RC Toulon. Donc, du coup, bah, voilà, on se dit, bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal tout ça, d'avoir une grande gueule comme ça au club. Mais voilà, là, quand on voit un peu les derniers jours, on parle de tapis, on parle de plein de choses, on voit bien que c'est de la mascarade. C'est complètement, voilà, c'est du fake. McCour veut pas vendre. Quand on voit que, bah, là, voilà, ils ont recruté Longoria en DG.
Eva Longoria, putain, super.
Ouais, Eva Longoria,
tu vas te mettre
c'est
la suivante, ouais.
Là, ça va m'intéresser.
Ça peut courir
bien, hein. Ah, ouais. Non, mais voilà, pour, non, sérieusement, voilà, quand on voit les démarches qu'ils mettent en place en ce moment, c'est pas un club qui est en vente. Les processus, Villas-Boas c'est resté. Voilà, c'est de la grosse mascarade.
T'étais voilà. Pour toi le rachat, si par exemple, je sais pas.
Moi, j'étais pour, ouais, j'étais pour, quoi. Bah, surtout quand on voit Boudjelal en tant que président, ça parle bien. On parle de Aroudi qui a 30 milliards d'euros de fortune, ouais, ça envoie du lourd. Donc
toi,
oui, au départ, on était emballé. Moi, pour ma part, j'étais emballé, mais quand je vois un petit peu.
Mais t'es emballé, alors ça veut dire que quelque part, si tu es emballé par la reprise du club, ça veut dire que t'es pas totalement convaincu par ce qui est fait. Et ce
ouais,
qui a
t'as
été
pas
fait.
Confiance.
Si, je suis confiant. Mais ce que je veux dire, c'est que. Avant tout ce processus de recrutement qui se passait avec Payet à prolongation,
ouais.
Les joueurs libres comme Pape Gay qui arrive, Balerdi en prêt, Thauvin qui est toujours là. Voilà, avant tout ça, oui, on n'était pas emballés. Maintenant, quand on voit qu'il y a une ossature qui se met en place, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Longoria qui arrive, on se dit que voilà, ça tient la route. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ont changé, comme McCour, il parle d'une phase 2 de lancement. Voilà, maintenant je suis curieux de voir ce que ça va donner à ce jour.
Moi après j'ai quand même quelque chose qui a du mal à passer, c'est qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Comment ça se fait que ce dossier, en plus comme par hasard sur l'OM, hein, c'est souvent un club qui est sur les feux, sous les feux des projecteurs, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a peut-être, des choses qui se passent dans l'arrière-scène, que nous on ne voit pas, mais surtout moi ce qui me fait peur, est-ce que tu ne penses pas que ça peut perturber le club et les joueurs?
Voilà, la chance qu'on a, c'est que déjà, on pourra pas trop assister au match début de saison, normalement, logiquement, pour l'instant. Donc, du coup, il y aura pas trop de banderoles, il y aura pas trop de feu dans le stade. Après, oui, comme tu dis, jamais de fumée sans feu, c'est sûr, mais moi, je pense que c'est plus de des amertumes, c'est que eux, ils ont voulu forcer pour acheter le club. Ils ont voulu passer le barre-le-biais de la presse pour que, bah, nous, supporters, les suivons. Là, ils voient que ça suit pas forcément, du coup, bah, ils sont un peu dans, dans la panade.
Après, Boudjelal, il n'est pas à son coup d'essai. Hein. Il avait déjà essayé de faire un peu le buzz en rachetant différents clubs. C'est pas la première fois qu'il monte au créneau. Après, comme tu dis, sur le papier, bah, ça aurait pu être éventuellement une bonne pioche. Après, je comprends mieux, entre guillemets, le refus de la direction de revendre le club à court terme. Quand on voit tout ce qu'ils mettent en place, je pense que, comme tu dis, ils ont un projet sur le long terme. Et puis aujourd'hui, bah, ils mettent les moyens pour y arriver. Moi, je suis assez confiant. Paradoxalement, même si j'aime pas l'OM, ça, je vais pas m'en cacher.
Ouais,
Je suis
mais tu
assez
vas l'aimer,
confiant
tu
pour
vas
l'année prochaine. On verra, on aura
voir.
l'occasion de
Au fond,
regarder des
t'as
matchs
la petite
ensemble.
lueur marseillaise, mon petit.
Bah
Un
écoute,
canari qui passe pour Paris, voilà, c'est au fond du les
c'est sûr. Écoute, ces dernières années, à chaque fois que je t'ai invité pour venir voir PSG l'OM, t'es jamais venu. Alors on verra cette année.
Ah, après, là, voilà, je pense que t'avais la réponse pour ça aussi.
Après, Jérôme, moi, il y a un truc qui me choque, les gars, c'est qu'on parlait il y a un ou deux mois quand même de Boudjelal sur le Racing Club de Toulon, on est bien d'accord.
Exactement,
Là, il passe
exactement.
sur l'OM. On est en train de parler du RC Mallorca et racheter Barcelone, quoi. Non, mais vous voyez le délire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quel impact et pourquoi Boudjelal fait cette communication-là? J'arrive vraiment pas à comprendre.
Bah, moi, déjà, quand tu disais, Melvin, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, il n'y a effectivement pas de fumée sans feu. Je pense que si Boudjelal se positionne sur l'OM, c'est parce qu'il sait déjà que l'OM, financièrement, c'est pas très stable. Alors, le projet sportif, on peut en parler, on peut être d'accord, confiant, pas confiant, ça, c'est chacun se fera son idée. Mais financièrement, la réalité, c'est que les ressources de McCourt sont limitées. Il n'a vraiment pas envie de remettre beaucoup d'argent dans le club. Et qu'aujourd'hui, effectivement.
Il y a le sujet du fair play financier.
Il y a le sujet du fair play financier. L'idée, c'est de savoir. Effectivement, si financièrement les épaules de McCourt sont assez solides pour pouvoir amener le club à son Champions Project. Après, moi, pour moi, ces histoires après de guéguerre, ça commence sérieusement à me saouler parce que ça prend une ampleur et une place dans les médias aujourd'hui qui, pour moi, n'a pas vraiment lieu d'être. On a d'un côté Boudjelal et Arroujdi, je sais pas comment on le dit, bref, qui fanfaronnent sur leur projet de racheter l'OM. Et de l'autre, on a McCourt et Hérault qui se plaignent en disant « Oui, monsieur Boudjelal, il n'est pas gentil, il veut nous racheter alors que nous, on veut pas, on va les attaquer, etc. Enfin, »
Ça, faut en parler aussi. Il y a quand même une action en justice qui a été faite.
Oui, exactement.
Donc, mais je trouve ça normal.
On,
moi,
sait, on, sait, on, sait comment les, on sait comment est Boudjelal. On sait qu'il a un ego démesuré. On sait que quand il s'agit de l'ouvrir, il en fait des tonnes et les médias, ils adorent ça. Donc c'est pour ça qu'ils vont le chercher. Donc si tu veux combattre quelqu'un comme Boudjelal, tu es obligé de le faire par l'ignorance si tu veux gagner in fine. Parce que si tu joues à celui qui crie le plus fort avec lui, tu as intérêt à être meilleur que lui. Et on sait que 2-1, bah McCourt, il maîtrise mal le français. Donc pour faire la guéguerre à Boudjelal dans les médias, ça va être compliqué. 2-2, Hérault, il en a autant dans le pantalon que Thiago Silva en Ligue des Champions. Donc, donc pour moi, Marseille.
Oh là là là.
Ça y est, ça commence. 7 minutes 48 d'émission et ça y est, c'est la première.
C'était pour ton retour,
mais. Non, mais faut dire la vérité. Boudjelal, c'est sûr que c'est pas Hérault. On est bien d'accord là-dessus. Hein.
Non, mais
c'est
sûr.
Mais ce
que je veux dire, c'est que dans la guéguerre, justement, les échanges, les passes d'armes dans les médias, etc., pour moi, Marseille ne peut pas lutter. Donc, pour moi, Marseille, avec son action en justice, va faire le jeu de Boudjelal, puisqu'ils vont lui donner une tribune supplémentaire pour pouvoir à nouveau fanfaronner. Pourtant, il suffisait de dire l'OM n'est pas à vendre, fin de l'histoire, et Boudjelal pouvait dire ce qu'il voulait, et bien cette histoire, elle serait repartie aussi vite qu'elle serait venue.
Mais voilà. je suis pas d'accord, on en a parlé en off avant l'émission, Kevin, je suis pas d'accord. Après, Jérémy dira ce qu'il pense, mais. Moi, franchement, sincèrement, aujourd'hui, tu peux pas laisser un mec comme ça. Il est tellement exubérant, il a aucune limite. Il s'adresse à tous les médias, il est là, il crache. Et les médias aujourd'hui,
non, on a pu voir les crashs qu'il a eu avec le RC Toulon aussi, avec les joueurs, les coachs aussi qu'il a eu sous la main.
Ouais, mais c'est pas possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tel néant par rapport à la Ligue 1, forcément, parce qu'il n'y a pas de championnat qui a repris, qu'en fait, quand tu tapes Ligue 1, tu voyais que ça. Le mec qui faisait, il était sur tous les médias français parlaient que de lui. Moi, je me mets à la place du projet. On parle de millions d'euros, on parle d'un club qui est qualifié en Ligue des Champions, qui est en train de faire sa pré-saison. Non, à un moment, il fallait couper court. Et je pense que l'action en justice, au moins, ça clarifie. Parce qu'il y a plein de langues de bois aussi. On fait pas, ça nous est arrivé. On l'a vu des dizaines, des centaines de fois pour d'autres clubs. On veut pas être vendu. Et puis hop, 3 mois après, ils sont vendus. Là, il y a une action en justice. Au moins, c'est pour dire, c'est terminé. Il n'y a pas de spéculation. On n'est pas en off en train de faire des communications pour faire monter les enchères. Point barre. Non, et moi je pars du principe que pour
mais
un
la,
club
mais la,
comme
la
Marseille
fin, la, fin, la fin de la médiatisation de ce projet c'était la fin, c'était vendredi quand ils ont parlé de Tapie, que Tapie était dans la boucle pour rentrer dans le comité et que Tapie derrière a intervenu en disant que Al-Jroudi l'a déjà vu 3 fois, il n'y a eu aucun contact avec ça, donc voilà,
ils
mettent des personnes dedans qui sont même pas au courant.
C'est à son âme, ils vont rappeler Pape Diouf. Non mais sérieux, à un moment donné
exactement,
non
mais voilà,
c'est
à son âme.
Oui,
voilà.
À son âme, mais c'est surtout que je pense que c'est un club qui a besoin de stabilité. Mine de rien, depuis qu'à McCourt et Hérault, bah, il n'y a pas grand bruit sur Marseille non plus. Il n'y a pas de grosses frasques, il n'y a pas de. Voilà, et contrairement à ce qu'on a pu voir ailleurs. Moi, par contre, je suis partisan de dire qu'effectivement, je ne suis pas trop inquiet pour la simple et bonne raison que ce soit McCourt ou Hero, ça a fonctionné l'année dernière, ils ont un bon entraîneur. Et si c'est Boudjelal.
Eh ben, tu vois, tu viens de dire un truc qui est hyper important. Tu as parlé de l'entraîneur. Je pense que la saison et le rachat de l'OM, je vais aller plus loin, c'est joué sur la prolongation de Villas-Boas. Si Villas-Boas claquait la porte et se barrait. Il y avait peut-être là, à ce moment-là, eu une porte ouverte à dire « Bon, écoutez, on a perdu notre entraîneur, le vestiaire, on ne sait pas comment il va suivre. » Là, il y aurait peut-être une possibilité de revente. Mais je pense que tout ça s'est joué au moment où Villas-Boas prolonge. Derrière, il y a Payet, il y a Mandanda qui déclare qu'il veut finir sa carrière au club. Il y a le retour de Thauvin. Thauvin dit qu'il n'a pas envie de partir. Donc, je pense que tout est mis après en ligne pour dire bah, « Villas-Boas, il a les clés, maintenant, c'est à lui de gérer. » Donc oui, je pense que pour moi, Boudjelal, maintenant, il faut qu'il se taise. L'action en justice, je suis pour. Et allez,
Le problème, c'est qu'il ne se taira pas. Moi, je veux bien si ça marche. Mais non, il se taira pas parce que tu vas lui donner une tribune pour pouvoir encore s'exprimer. Alors que si, je prends l'exemple, je dis pas que Boudjelal a raison et qu'il fallait que Boudjelal rachète. Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que Boudjelal, si tu veux qu'il se la ferme, il faut l'ignorer.
Mais et c'est ce qui va être fait à partir de maintenant.
Bah non.
Mais derrière, ils ont doublé d'un juridique.
Bah ouais, justement, donc tu lui donnes de la puissance et une tribune.
Je pense que ça va continuer. Bon, écoute. Jérém, on va clore le sujet. Petit pronostic pour toi. Est-ce que tu vois quand même l'OM faire une bonne saison l'année prochaine et encore finir en Ligue des Champions?
Oui, ils vont finir sur le podium cette année.
Bon, bah écoute.
Il y a les petits jeunes là qui montent leur bout de nez. Thauvin qui est là. Pape Gueye, je pense qu'il va être surveillé.
Ouais, je pense que c'est vrai.
Il y a Camara
toujours là. Non, mais ils ont un effectif pour moi qui va surveiller.
Voilà, on va attendre. Le mercato n'est pas fini, mais oui, je suis confiant pour cette année avec Villas-Boas qui est encore aux manettes. Et voilà, c'est la recrue de l'OM cette année.
On verra comment l'OM va gérer aussi cette histoire de Ligue des Champions avec l'enchaînement des matchs. Et puis on sait très bien qu'à l'OM, plus qu'ailleurs, les championnats se suivent mais ne se ressemblent jamais aussi bien dans un
tout
sens
va très vite à l'OM, c'est ce qui fait le charme du club.
On verra si dans les périodes creuses ils savent justement rebondir.
Arrête
merci
de nous
à toi,
vendre
Jérém.
L'OM là.
On merci, achètera Jérém. Pas nous, d'accord.
Merci.
Et Paris va gagner cette Ligue des Champions ou pas?
Ils vont la gagner.
Espagnol,
on est en train de tout préparer.
Manière, c'est soit cette année soit jamais.
Bon, à plus les gars, ciao.
Allez, merci
à vous. Salut, ciao.
Allez, voilà, on vient de parler de Marseille. Hein. On a bien compris avec Jérém que bon, c'est une situation finalement qui est compliquée sans l'être. Hein, parce que si c'est repris, bah, écoutez, c'est par des bonnes personnes. Donc on va pas s'en soucier. Messieurs, deuxième sujet.
Oui.
Forza, la Juve! Allo, viens, comme on est en Italie! Ah. J'en ai un côté.
Il est debout, dans
il
le studio.
Les yeux,
descends de la table, Kevin, descends de la table.
Il a le drapeau de l'Italie sur lui, c'est un truc de fou.
Non, mais alors, ça, pour nos auditeurs, hein, en toutes circonstances, il met le maillot de la Juventus. C'est le seul jour où il le met pas. C'est le jour où la Juventus est sacrée. Je sens quand même une amertume derrière
non,
tout ça.
Tu sais pourquoi? Il a mis la chemise blanche avec le pantalon noir et blanc à carreaux. Je te jure, il est même aux couleurs de la Juventus quand
oui,
il a bien.
Mais vous n'avez pas vu, tout est dans la subtilité chez moi, comme quand je m'exprime.
Messieurs, dames, la Juventus, enfin champion d'Italie hier soir. D'accord. Après, pour moi, une fin de saison catastrophique.
Chaotique, ouais.
Chaotique. Un club qui est complètement dans... j'ai envie de dire, dans l'expectative. Ils ne savent pas où ils en sont, tant au niveau de leur entraîneur qu'au niveau de l'effectif. C'est compliqué, sportivement, en coulisses. Je vais d'abord donner la parole à Kevin parce que c'est un club que tu connais bien.
Un petit peu.
Malheureusement, même si je sais que tu sais pas du tout être lucide sur ton club, c'est pas grave. On va quand même te donner la parole sur la Juve.
J'espère en tout cas qu'on a prévu 2 heures parce que j'ai noté énormément de choses.
Oh là
donc,
là
j'espère
là.
Que j'aurai le temps de tout dire sans me faire couper par Pierre.
Allez, vas-y, je t'en prie.
Déjà, moi je vais commencer par énoncer que bah, malgré tout ce que je vais vous dire après. Je reste un supporter heureux et fier parce qu'on a obtenu hier le 9e titre consécutif en Serie A, ce qui n'est pas rien et qui reste un exploit parce que, sauf erreur de ma part, aucune équipe des 5 grands championnats ne l'a réalisé. Alors, voilà.
Bravo.
Donc, ça fait...
bravo.
jingle.
Vous êtes vraiment...
Ok, c'est un exploit. La Serie A reste quand même quasiment un national de France, de français, quoi. On est d'accord, Pierre.
Je continue. Donc ça fait 36 titres au total, 38 si on rajoute les 2 titres retirés. Donc je pense que ça mérite un certain respect que j'ai trop rarement vu ces dernières années de la part de ceux qui se disent amoureux du foot, mais qui critiquent la plupart du temps sans regarder un seul match de Serie A. Donc la Juventus a gagné 9 titres consécutifs et elle a su confirmer sa supériorité malgré des adversaires coriaces qui n'ont jamais rien offert à cette Juve. Ceux qui regardent la Serie A savent que c'est un championnat difficile où très peu d'équipes s'avouent vaincues avant de commencer le match. J'ai pas reconnu la Juve cette saison, et pas seulement depuis les derniers matchs très laborieux. Alors est-ce que c'est parce que Sarri a voulu changer trop de choses et que ça prend du temps, peut-être, mais le problème dans cette le problème c'est que quand tu engages des changements, tu es censé quand même voir un minimum de progression, ce qui est plutôt l'inverse dans le cas présent. Pour moi, il y a plusieurs problèmes que la direction et le staff doivent régler s'ils veulent progresser. Le premier, c'est s'ils décident déjà de garder Sarri, il faut lui donner des joueurs qu'il veut pour son système. À partir du moment où tu choisis Sarri et que tu veux une équipe qui te fait du Sarri sur le terrain, il faut le profil de joueur qui correspond à ça, notamment au milieu de terrain. Et cette année, il n'a pas eu son mot à dire sur le recrutement. Ce qui peut expliquer pourquoi cette équipe ne progresse pas et pourquoi la patte Sarri a du mal à se mettre en place. La deuxième chose, c'est que Sarri doit aussi apprendre qu'il n'est plus à Naples. Et que les choses ont changé. Il doit aussi adapter son discours et son analyse. Quand il arrive sur le banc de Naples, personne ne s'attend à ce qu'il va faire et il a tout loisir de mettre en place ce qu'il veut et de surprendre tout le monde. À Chelsea, puis à la Juve, c'est différent parce que tous les matchs, il est attendu et tous les matchs, quand tu es attendu, tu dois surprendre. Si tu te mets à jouer, à attaquer et à défendre de la même façon sur tous les matchs, tu es mort. Parce que, in fine, tout le monde va finir par comprendre ton schéma, ta tactique et donc tout le monde va anticiper ta stratégie. Donc Sarri doit apprendre aussi à être plus flexible et à s'adapter à l'adversaire. Surtout si l'adversaire il est plus faible, parce que contre les équipes les plus faibles, on a eu du mal cette saison. Ce n'est pas contre les grosses équipes, c'est surtout contre des équipes qui sont plus faibles. Et dernier point, la grande force de la Juve depuis la nuit des temps, c'est que c'est une équipe qui n'abandonne jamais et qui joue tous les matchs pour gagner. Cette année, je n'ai pas retrouvé cet état d'esprit. Pour moi, mon état d'esprit et l'état d'esprit de la Juve, c'est plutôt qu'il faut haïr toute forme de défaite, il faut maudire la défaite. Si tu veux arriver au sommet, tu dois accepter aucune défaite. Et cette année, on a laissé filer 18 points alors que on menait au score. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est très parlant et qui n'est pour moi pas normal. Et c'est pourtant là où la Juve, elle a été meilleure ces dernières années. C'était dans sa capacité notamment à maîtriser son sujet quand elle était devant au score. Cette année, j'ai trop eu souvent l'impression que l'équipe faisait preuve de suffisance, surtout face aux équipes les plus faibles. Donc dans un championnat comme l'Italie où tout le monde rêve de faire la peau à la Juve, tu ne dois jamais penser que le match est gagné d'avance. C'est un luxe que la Juve ne peut pas se payer, et encore plus en Ligue des Champions. Après, il y a aussi d'autres choses à dire. Alors, sur les transferts, etc. Des joueurs qui doivent partir, d'autres qui doivent être recrutés. Mais pour moi, c'est vraiment mon ressenti sur la saison de la Juve. Quoi.
Alors j'ai envie de te dire, alors, la faute à qui pour toi? Parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que tu dis que c'est la faute à Sarri.
C'est pas la faute à Sarri. C'est pour moi, ce sera la faute à Sarri le jour où, quand on lui aura donné tout ce qu'il veut et qu'il aura tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot et qu'il n'y arrivera pas, ce sera de sa faute. Pour l'instant, pour moi, les torts sont partagés entre la direction, l'entraîneur et même les joueurs, parce qu'il y a un problème d'état d'esprit aussi, où je pense que les joueurs doivent aussi se poser les bonnes questions. Pour moi, des torts sont partagés. Après, je ne vais pas dresser un tableau très noir. Être champion, c'est quand même quelque chose de super. On peut encore finir le championnat avec 89 points, ce qui est quand même pas rien.
Non, mais la performance, voilà, elle est là.
Mais sur le terrain, j'émets des grosses réserves, notamment parce qu'on sait très bien que l'objectif ultime, c'est pas le championnat, c'est la Ligue des Champions, et cette année, on est encore très loin.
Et justement, quand tu parles de ça, on va donner la parole à Pierre d'ailleurs. Moi, je vois une Juve qui est en déclin, que je sens pas capable justement d'être au niveau de la Ligue des Champions. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je vois un effectif qui est fabuleux, un stade qui est fabuleux, un club, comme tu le dis, qui force le respect et qui est très bien organisé et très stable. J'arrive pas à comprendre pourquoi la Juve est dans cette situation-là, hormis si c'est un problème sportif d'entraîneur, parce que ce qu'on reproche à la Juve, comme tu le dis, c'est un problème d'esprit, d'accord, et de qualité footballistique et de jeu. Donc, excuse-moi, qui prône ça? Pour moi, c'est l'entraîneur. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Pierre, à ton tour.
Bon, ça me fait plaisir de prendre la parole sur ce sujet parce que j'ai cru que Kevin allait monopoliser les 10 minutes. Au moins, il était sûr qu'on puisse rien dire sur la Juventus.
On l'a respecté.
Voilà, on l'a respecté, mais il ne pourra pas dire au moins que je lui ai coupé la parole. Bon, moi, il y a plusieurs sujets. Alors, il y a déjà deux points sur lesquels je vais rebondir très, 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 très rapidement. Et j'espère que les auditeurs partagent mon point de vue. Kevin dit que la Juve doit se battre et que cette année encore, il y a eu une concurrence très dure sur la Serie A. Alors, Kevin part du principe qu'on ne regarde pas les matchs de Serie A, alors que c'est un petit peu faux.
Qui est la vérité.
Enfin, moi, moi cette année, je suis désolé, c'est qui les adversaires de la Juve cette année? Enfin, entre 2015 et 2017, il y avait la Roma, il y avait Naples qui, ça jouait à 3-4 points, les équipes montaient à 90 points en fin de saison. Cette année, c'est qui l'adversaire de la Serie A?
Bon, y a que
moi, pour moi, la Juventus, et encore, t'as l'Atalanta qui est meilleure attaque de Serie A, mais qui est presque la pire défense de Serie A. Donc oui, c'est spectaculaire, merci l'Atalanta pour le spectacle en Serie A, merci, merci, merci. Une fois que tu fermes cette parenthèse, tu te dis c'est qui l'adversaire cette année de la Juventus? Moi, la Juventus, super, 9 titres de suite avant de le faire. Eh ben, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes, même dans le Big Five, qui arriveront à le faire. On le voit bien comme c'est compliqué en Première Ligue, même comme ça l'est en France, avec Paris qui a, malgré le faible niveau de la Ligue 1, réussi à se prendre les pieds sur Monaco, sur Montpellier et d'autres. Donc oui, félicitations, je ne vais pas enlever le titre à la Juventus. Ils l'ont mérité, mais tu ne pourras pas me dire que cette année, c'était une année disputée. La Juventus, de par son niveau médiocre par rapport aux dernières années, doit en grande partie son titre à la médiocrité de ses adversaires cette année. La Roma, l'Inter de Milan, qui finit un peu fort sur la fin, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc pour moi déjà, la Juventus doit avant tout son sacre à, au faible niveau du reste de ses adversaires en Serie A cette année.
C'est totalement faux.
Mais c'est, après, c'est mon ressenti.
C'est ton ressenti qui n'est pas bon, Pierre. Je suis désolé. Arrête, tu me parles de concurrence. N'importe. Non, mais
c'est comme un championnat de France. Il n'y a pas de concurrence.
Mais attends, avec le PSG. Mais moi, j'ai, justement, parce que je vous connais bien et j'ai anticipé ce type d'objection.
tu remarqueras que j'ai placé mon premier point. Et puis Kevin va repartir.
Non, mais parce que tu peux pas te laisser je peux pas te laisser te dire ça. La concurrence de la Juve cette année, ça a été l'Inter, ça a été la Lazio, ça a été l'Atalanta. Il y avait trois équipes aujourd'hui qui, certes, au niveau qualité d'effectif, n'étaient pas aussi fortes que la Juve, et la Juve a fait respecter la hiérarchie, mais c'est des équipes qui ont donné beaucoup de fil à retordre à cette Juve, beaucoup plus que sur les dernières années, où généralement, tu n'avais généralement qu'un adversaire coriace sur l'année. Ça a été la Roma quelques années, ça a été Naples quelques années. Mais au final, tu te retrouves, là, il reste deux journées. Sur les deux journées, on peut se retrouver encore avec trois équipes, même peut-être quatre, à plus de 80 points sur la fin de la saison. Je suis désolé, le PSG, si je vous donne les chiffres, parce que je les ai sur les 7 titres qu'ils ont gagnés sur les 9 dernières années, le nombre de fois où ils ont eu un dauphin à plus de 80 points, deux fois. Et deux fois, pas à 85, à 87, et deux fois à 80 points, c'était deux fois Monaco. Ils ont même été champions une fois avec un Lyon à 65 points. Non, donc on vient pas me dire qu'il n'y a pas de concurrence, etc.
Mais Kevin,
cette année, ça a été très dur. L'Atalanta peut encore se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions et est arrivée quand même déjà en quart de finale. L'Inter est en course et a des ambitions en Ligue Europa. Je suis désolé. La Lazio s'est certes écroulée sur la fin de saison parce que je pense que le Corona leur a cassé un peu les jambes. Je suis désolé, mais ça a été une année très éprouvante, très difficile.
Ça, je suis d'accord avec toi. Niveau de la Serie A. Mais ça a été une épouvante et difficile parce que aussi la Juve a baissé en qualité.
Aussi.
Mais d'accord. Non, mais Kevin, la seule chose qu'il sait me dire, c'est comparer avec le Paris Saint-Germain. Loulou, je te parle pas de la Juve vs le Paris Saint-Germain. Je te parle de la Juve vs la Juve des années précédentes. Oui. Le Paris Saint-Germain, il faut voir les millions d'euros qui ont été investis sur un championnat, sur un club qui, à l'époque, était peut-être du niveau du championnat de la Russie. Il y a 6, 7, 8 ans, c'était catastrophique. Il n'y avait que l'OL et puis le reste, c'était le néant. Le Paris Saint-Germain se maintient dans la difficulté les années avant le rachat. Donc oui, bien sûr, faut comparer ce qui est comparable. Et si tu t'amuses à comparer le Paris Saint-Germain qui est dopé depuis 4-5 ans à coups de millions d'euros par rapport à la Juventus, c'est sûr qu'il n'y a pas comparaison. Moi, je te parle même pas de ça. Je te parle même pas du Paris Saint-Germain. Je te parle de la Juve vs la Juve par rapport à la Serie A telle qu'elle est aujourd'hui. Autre chose, tu parles de Sarri. Mais Sarri, faut voir l'effectif qu'il a. Le mec, il a quand même Higuain, il a Dybala, il a Ronaldo, il a un effectif, il a Rabiot, il a De Ligt, il a quand même un effectif de malade, le
j'ai
mec.
J'ai pas dit qu'il avait pas un gros effectif.
Non, mais il limite, quand je t'écoute, bon, il a bricolé avec les moyens du bord, mais je
non,
comprends la Juventus.
J'ai dit que Sarri, si tu veux qu'il fasse du Sarri, il lui faut des joueurs qui fassent du Sarri. Il lui
mais
faut
mais
pas forcément. Bah, il lui faut son Jorginho, parce qu'il a pas son Jorginho. Ouais, mais... Et il a joué à Naples avec les trois nains devant. Il lui faut peut-être des joueurs qui ont plus de profil.
Il faut Immobilier.
Non, pas Immobilier, il a jamais entraîné Immobilier.
Okay. Non, mais tu parles de nain.
Tu parles de nain.
Oh
il est pas nain, Immobilier. C'est Insigne qui est petit.
Ah oui, c'est Insigne, pardon, excuse-moi.
Mais il a Cuadrado, il a de l'effectif, il a des joueurs
j'ai
techniques.
J'ai pas dit qu'il avait pas les moyens, mais il a peut-être pas le profil qu'il veut pour faire ce qu'il a envie de faire.
Alors, mais moi j'ai envie de te dire autre chose. Est-ce que c'est le profil qu'il faut à la Juventus? Moi je suis pas sûr.
Bah, en tout cas, c'est le profil qu'il faut pour Sarri. Donc soit c'est Sarri qui est pas compatible à la Juventus, soit il faut lui donner les joueurs qu'il veut. Je suis désolé, mais un entraîneur, quand il arrive dans un club, n'importe lequel, s'il veut pouvoir faire du bon travail, il doit pouvoir choisir quand même quelques joueurs. Il n'en a choisi aucun. De Ligt n'était pas son choix.
Mais après, je dis pas choisir quand t'as De Ligt, que t'as Cristiano Ronaldo, Dybala dans ton effectif, et il doit faire avec les moyens, faire avec ce qu'il
a. Il a fait avec les moyens du bord.
Mais c'est pas les moyens du bord, c'est des moyens extraordinaires.
Mais
n'ont
aujourd'hui,
pas.
Il a besoin. C'est des joueurs que Allegri avait choisi. Il a hérité d'un effectif que Allegri avait choisi, peaufiné, façonné pendant 5 ans.
Kevin, t'entends ce que tu viens de dire? Tu viens de dire pour qu'un entraîneur réussisse, il doit pouvoir choisir 3 ou 4 joueurs. Mais moi, ça me scandalise. C'est pas quelque chose que je peux accepter d'entendre. Un bon entraîneur, pour moi, il est capable de s'adapter à son effectif et de tirer le meilleur de son effectif. Pour moi, si le mec, il vient et s'il a pas ses 4 joueurs, et ben dans ces cas-là, il peut dire donc, bah ouais, mais les mecs.
Donc, Klopp n'a pas façonné l'effectif de Liverpool. Il a hérité d'un effectif qu'il n'a jamais touché et il est devenu le meilleur entraîneur et le meilleur effectif d'Europe en ne faisant aucun.
Et il a fait quoi avant Klopp, avant Liverpool, avec le Borussia Dortmund?
Mais c'est pareil, il a façonné l'effectif, ça prend du temps.
Il a utilisé 105%.
Klopp, il met 4 ans, je suis désolé, Klopp, il met 4 ans pour faire de Liverpool le meilleur club d'Europe, d'accord? Et au début, c'est pas ça quand même. Hein.
Oui, mais
d'accord,
la Juve n'a pas 4 ans.
Mais c'est stérile.
La Juve n'a pas 4 ans, c'est seul.
C'est stérile comme débat, les gars. C'est comme quand on dit Zidane, au début, il galérait parce qu'il n'a pas eu Paul Pogba. Tu peux pas t'arrêter en disant l'entraîneur, il est mauvais parce qu'il n'a pas eu son joueur chouchou, son joueur préféré. Faut arrêter. Un entraîneur, le but, c'est de sublimer ses joueurs. Tu dois le faire quand tu es avec du football amateur, comme tu le fais le week-end, Kevin, avec tes jeunes. Tu dois sublimer. Tu dois pas te dire, bah, cette année, on a foiré parce que j'avais pas mon ailier droit, parce que moi, j'aime bien faire passer le jeu par l'aile droite. Non, t'arrives, t'as un effectif point barre. Et oui, si t'as le luxe de réussir dans la durée et de t'inscrire dans le club et d'avoir la chance d'avoir une enveloppe suffisante pour faire venir des joueurs, là tu vas aller chercher de la performance. Mais normalement, tu dois avant tout, avant de vouloir recruter, pouvoir sublimer un effectif. Et c'est là où on reconnaît la patte des grands entraîneurs. Et moi, pour moi, Klopp, tu l'as cité avant d'arriver à Liverpool, où là il arrive avec des prétentions au niveau du nombre de joueurs, de son effectif. Avant, il a fait des merveilles en Bundesliga quand il fait monter son club. À la base, c'est comme ça qu'il se fait connaître. Mince, j'ai mangé le nom du club. Voilà, quand il fait monter en première division, derrière ce qu'il fait avec les moyens du bord avec Dortmund, c'est magnifique. Donc, moi, pour moi, un bon entraîneur, comme va devoir le faire Villas-Boas, il arrive, il n'a pas d'enveloppe, son club il est déjà sous le coup du fair play financier. Bah, il compose avec ce qu'il a, il fait passer un milieu ailier droit, il fait remonter son défenseur central, milieu récupérateur, et tu dois sublimer tes joueurs. T'as pas le choix. C'est comme quand au PSG, il faisait jouer Matuidi en latéral gauche en avant pour pouvoir gonfler et muscler le jeu du Paris Saint-Germain sur la récupération de balles. Tu dois faire ça, pour moi. Tu dois être dans le dépassement de fonction et tu dois sublimer ton effectif
mais
et tes joueurs.
Je suis en partie d'accord avec toi.
Merci.
Mais si tu cherches la victoire de la Ligue des Champions, ça ne te suffit pas. C'est
bah,
tout.
Bah pour moi, ça devrait suffire.
Ouais.
L'effectif qu'il a devrait suffire à gagner la Ligue des Champions.
Bah, peut-être si tu avais un autre entraîneur que Sarri, oui. Mais si tu n'as pas. Si tu n'as,
voilà.
Si, mais oui, mais c'est ce que je dis. Si tu veux faire du Sarri, il faut des joueurs qui fassent du Sarri. Maintenant, si tu veux garder cet effectif-là et gagner la Ligue des Champions, ce sera sans Sarri parce que l'effectif n'est pas Sarri compatible. Alors c'est peut-être triste, c'est peut-être pour ça que Sarri ne sera jamais le grand entraîneur comme Zidane, Klopp, etc., Guardiola, etc. Mais je suis désolé. Généralement, tous les entraîneurs qui arrivent in fine à toucher du doigt ce rêve de la Ligue des Champions et ce rêve d'avoir le meilleur effectif d'Europe et d'en faire aussi une équipe qui joue bien, il faut des joueurs qui te ressemblent sur le terrain. C'est comme ça.
Bon, je crois qu'on va clore le sujet, hein. On pourra en discuter des heures et des heures. On va faire une petite pause musicale, hein, malgré qu'on ait perdu un peu de temps. Ça va faire du bien, on va se reposer. On va peut-être se mettre dans une salle noire, dans un blackout total, mettre 2-3 marrons et puis... Et puis ça fera du bien, petite séquence zen, tout de suite, avec I Need a Dollar d'Aloe Black.
I share with you my story. Would you share your dollar with me?
Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, on est de retour dans le RKS Foot Time Show. On a parlé de Marseille, on a parlé de la Juve longuement. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Insta. N'hésitez pas à commenter, à nous donner des idées de sujets.
N'hésitez pas à dire à Pierre qu'il a tort.
Voilà, non, venir me soutenir.
N'hésitez pas à dire qu'aujourd'hui, dans son costume, c'est un beau petit poussin, notre héros. Messieurs, dames, on va parler de l'actu française de la semaine dernière. C'est cette finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Une finale inédite avec, dans un stade de 80 000 personnes, 5 000, essentiellement quasiment composées, il faut le savoir, des familles, des joueurs, cousins, la tante, etc. Je crois qu'il aurait mieux fait de jouer à la Baie des Champs ce match, comment le stade n'arrêtait pas. Non, mais franchement, on va en parler. Un Paris Saint-Germain champion, mais qui a galéré énormément face à une équipe de Saint-Etienne que j'ai trouvé plutôt valeureuse et qui a essayé de proposer quelque chose. On a avec nous Romain, futur animateur sur RKS. Romain, comment vas-tu ?
Eh bien, tout va très bien. Merci à toi, Kevin, de m'accueillir à nouveau dans ton émission.
Il n'y a pas que moi, il y a Melvin et Pierre aussi. Hein. Mais je sais que je suis
tout à fait, Melvin et Pierre, mais les amoureux du football français, bonjour à vous.
Salut Romain.
Salut, salut.
Bon, Romain, toi, en tant que même amateur, j'ai envie de dire professionnel du rugby, mais aussi amoureux du football, comment t'as vu cette finale qui était vraiment bizarre sur tous les points ?
Bien sûr, alors j'ai vu cette finale avec un pari, avec un gros frein à main, une grosse caravane. On va dire que Paris a joué totalement avec le contrôle. Voilà ce que j'ai à dire sur Paris.
T'as trouvé qu'ils ont joué avec le contrôle, toi ?
Ouais, tout à fait. On va dire que le match était très terne du côté parisien. On va dire qu'il n'y a pas eu forcément d'éclat. Il n'y a pas eu de fulgurance de la part de Neymar, Mbappé, Di Maria.
Mbappé, il n'a pas eu le temps. Mbappé, il n'a pas eu le temps, le pauvre.
Oui, Mbappé, mais après on va en revenir après sur cette intervention de Loïc Perrin qui, pour moi, n'est pas vraiment maîtrisée, mais qui n'est pas non plus très méchante, on va dire.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Ouais, il veut pas l'assassiner, mais pour autant c'est dangereux, quoi.
C'est ça, après l'action va vite. Je pense que Perrin n'a pas le contrôle, perd un petit appui si on voit un peu la vidéo de cette action. Donc voilà, le match ne se fait pas là-dessus parce que durant les quatre dernières confrontations contre Paris, il faut savoir que les Verts ont démarré le match déjà avec le carton rouge au bout de quelques minutes. Donc ça, c'était presque écrit, on va dire, les amis.
Je crois que chaque équipe qui joue contre le Paris Saint-Germain, c'est quand même dangereux.
C'est ça.
Maintenant, j'aimerais avoir ton sentiment aussi en tant que t'as connu le sport quand même à haut niveau. Une situation comme ça, de professionnels qui sont dans un stade de 80 000 personnes quasiment vide pour une finale très importante, qu'est-ce que tu penses que ressentent réellement les joueurs ?
Après, moi, personnellement, j'ai jamais vécu ce genre de situation parce que j'ai arrêté de jouer depuis un moment. Mais je pense que mentalement, pour les joueurs, on est en perte de quand même de dépassement de soi-même, de la ferveur du public. On connaît bien le public vert, le public stéphanois, c'est avant tout un peuple. Et je pense que durant une finale, le public a manqué à Saint-Étienne pour pouvoir pousser au plus profond ses joueurs, quoi.
Je crois qu'on parle souvent du 12e homme, mais chez les Verts, c'est quand même très très important. Et je crois que ça a énormément manqué. Et je pense que, je ne sais pas si vous voulez me contredire, hein, Romain, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais je pense que dans les dernières minutes où Saint-Etienne a énormément dominé, ça aurait pu faire la différence.
Oui, parce qu'à ce niveau-là, ça joue sur des détails. Après, encore, moi, je n'ai pas envie de trop tirer sur Saint-Etienne. Alors après, on pourra toujours dire qu'ils auraient pu tirer plus. Mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est plus qu'honorable, surtout à 10 contre 11. Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient en infériorité numérique. Après, je ne veux pas non plus trouver une excuse au Paris Saint-Germain qui a fait un super match contre Dortmund alors que le stade était vide et qui a quand même été dans le dépassement de soi pour aller chercher un match plus que correct avec derrière une qualification pour les quarts de finale. Moi, j'ai trouvé cette finale terne, triste. Je pense qu'à un moment, quand tu as cette chance de jouer comme ça en direct sur les chaînes comme ça qui sont décryptées, qui plus est dans plus de 60 pays, bah c'est un moment où il faut se mettre un peu en lumière. Je trouve que l'effectif de Saint-Etienne l'a très bien fait, notamment avec le défenseur central là, de Saint-Etienne qui a vraiment franchement éclaboussé la rencontre et qui pour le coup a fait parler un petit peu de lui. Je trouve que...
Vous savez l'histoire de Fofana quand même?
Non, je la connais pas plus que ça. Non, je me suis pas.
Dans les quartiers de Marseille, recruté par Saint-Etienne, c'est quand même assez incroyable.
Tout à fait. Fofana qui est marseillais d'origine.
Marseillais d'origine qui a été sur les tablettes de Marseille et qui l'a laissé partir à Saint-Etienne. C'est incroyable.
Absolument.
C'est assez incroyable. Mmh. Et sur ce match-là, voilà, à part. Tu vois, c'est paradoxal parce que moi, les deux qui ressortent, je sais pas ce que t'en penses, Romain, tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, c'est côté parisien, c'est Backer. C'est l'ailier gauche qui a fait un match plus que correct avec des sorties de balles parfois quand il était en prise à deux sur son poteau de corner où il sort tout seul et il relance plus que proprement. D'ailleurs, il a été le deuxième joueur élu homme du match juste derrière Navas. J'aurais presque pu le mettre premier. Et Fofana, de l'autre côté, assez impressionnant. Donc deux jeunes de 19 ans qui éclaboussent une finale comme ça en direct, je trouve ça assez paradoxal.
Après...
C'est ça, et c'est assez exceptionnel parce que du côté de Baker, il n'a pas forcément joué la saison qui vient de se passer.
Ouais,
il a même quasiment, il doit avoir 125 minutes au compteur, donc c'est très peu. Après, du côté de Navas, bon, ben, on connaît, c'est un homme des grands matchs, on l'a vu dans le passé avec le Real. Et puis du côté stéphanois, moi, pour moi, vraiment, bon, il y a eu Fofana qui a été exceptionnel, 19 ans et un mental d'un gosse qui a 35 ans. Ouais. Moulin qui prouve, voilà, qui fait taire un peu la presse en disant, voilà, moi, je vais être numéro 1, je vous le prouve aussi, c'est passé par ce soir. La capacité à sortir des arrêts comme ça, je vous ai montré que ce soir, moi, j'étais titulaire numéro 1 de Saint-Etienne. Et après, il faut penser un troisième, le troisième larron, qui est sorti du Sporting Braga, qui joue en Détroit portugaise, là, Ivan Neyou. On n'en parle pas d'Ivan Neyou, mais Ivan Neyou, ça a été sensationnel. Ça a été du Pogba en 45 minutes.
On en rigole, mais il a fait un match exceptionnel, Neyou.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai.
Par contre, moi, il y a quand même une question que je me pose. Romain, je ne sais pas ce que tu en penses, et vous, ce que vous en pensez, Pierre et Kevin. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas peur, justement, de ces deux finales pour la suite en Ligue des Champions?
Non, je pense pas, parce que ce ne sera pas les mêmes matchs. Déjà, bon, on ne peut pas enlever qu'Mbappé, c'est le deuxième ou le meilleur joueur de l'effectif parisien. On voit à quel point il a pesé sur la rencontre, ne serait-ce que par sa percée qui amène le but. Moi, j'aurais bien aimé aussi voir un match sur lequel Mbappé aurait été là du début à la fin. Donc, il y a déjà ce facteur X. Bon, Kerrer, oui, ça reste le latéral droit là ces derniers temps. Bon, il s'en va, il sort. C'est pas ça qui non plus a plombé le match. Après, les prochains matchs, il y aura aussi le retour de Marco Verratti. Il y aura le retour de Kimpembe. Il y aura, voilà, il y aura tous ces facteurs. Il y aura le retour de Mbappé, j'espère, pour l'Atalanta, qui fera qu'il y aura un autre visage. Ce sera un autre match. Kurzawa, il faudra voir ce qu'il va donner sur l'aile gauche. Mais là, c'était pas non plus, notamment sur la deuxième mi-temps, le meilleur 11 du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils n'étaient pas dans les meilleures dispositions mentales. Sincèrement, je pense qu'en Ligue des Champions, ce sera une autre équipe qu'on verra. Je ne suis pas inquiet. Après, on verra la finale contre Lyon. Ça va être un autre match. Sincèrement, là, j'ai du mal à le jauger. Celui-là, il l'appréhendait. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain qui se présentera à Lisbonne, ce sera une toute autre équipe, sincèrement.
Moi, je suis une surprise sur cette finale de la Coupe de la Ligue. Alors, la surprise, ça peut être autant Lyon qui tape Paris fleuve ou Paris qui met une branlée à Lyon.
Lyon en plus, il y a un double. Lyon en plus, il y a un double enjeu, hein, parce que si Lyon veut être européen l'année prochaine,
ça passe que par la. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions, on va pas non plus.
Non.
Arriver.
Bon, voilà. Ils ont autant de chances que la Juventus de la gagner. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà débattu. Non, mais par contre, oui, pour moi, Lyon va mettre vraiment les bouchées doubles et Lyon va jouer sa peau. Je pense que Lyon va même mettre plus d'intensité et de volonté dans ce match, dans cette finale, que le match contre la Juventus, sincèrement.
Romain, pour en finir, j'aimerais savoir toi ce que tu penses au niveau de cette finale. Est-ce que c'est Saint-Étienne qui a été bon ou est-ce que c'est Paris qui a été mauvais?
Alors pour moi, pour être objectif, en étant tout d'abord un supporter stéphanois, je vais être objectif, clairement être neutre. Paris n'a pas du tout joué, sincèrement, on les a vus que par à coup. Et Saint-Étienne a été très bon, ils ont fait preuve d'abnégation. Et comme je le dis encore une fois, comme on a pu le dire avec Melvin et Pierre, sincèrement, il y a eu un manque cruel de public, de cette ferveur. Ah oui. Et je pense du fond du cœur qu'avec cette ferveur, sincèrement, mais Saint-Étienne, mais à la trappe Paris, quoi. Ils leur en mettent deux ou trois. Sincèrement, faut voir les choses comme elles sont. Voilà, on a pris du recul après ce match, mais Saint-Étienne est en train de créer la sensation avec des recrutements fantastiques à Ouachiche. Par la suite, on va avoir vraiment une très belle équipe homogène. Et je pense que cette finale, je le redis une dernière fois, avec les supporters, ça aurait été toute une autre histoire.
T'aurais préféré qu'elle se joue pas, cette finale, Romain?
Oh, quand même.
Non, mais...
Non, parce que moi, j'y croyais. Je pensais que voilà, c'était quand même un billet pour l'Europe. Hein. Faut pas se cacher, c'était important. Mais d'un autre côté, ça prend une transition.
Aussi, hein. Je peux vous dire que Patrick Vieira, qui était en loge au Stade de France, il était content puisque ça a libéré la place pour Nice. Mais bien sûr.
Et on a pu voir Nice contre Saint-Etienne en amical. Nice a été désastreux, ouais, qu'ils en prennent 4.
Ça paraît incroyable, mais ouais, je pense que Saint-Etienne va faire un bon championnat.
Ouais, c'est ce que disait Moulin. Moulin a dit que l'effectif avait retrouvé des sensations et des connexions et que c'était de très 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 bon augure pour l'année prochaine.
Moi, je les ai trouvés heureux.
Ouais, je partage.
Heureux, cohérent.
Ce qu'il faut bien dire avec Saint-Etienne, c'est qu'ils reviennent de loin parce que printemps, ça n'a pas fait du bien. Puel, il a récupéré un effectif qui était en roue libre totale, aussi bien d'un point de vue discipline que d'un point de vue physique que d'un point de vue tactique. Donc il a dû tout refaire, donc il n'a pas pu effectivement faire des miracles sur la fin de saison, même si finalement, heureusement, ils se maintiennent pour la saison prochaine. Mais Puel, je pense que là, il va pouvoir travailler correctement. Il a déjà fait, je pense, une belle préparation. Ça s'est vu sur le match de vendredi. Et donc moi je pense qu'effectivement Saint-Étienne fera une bonne saison s'ils perdent pas trop de joueurs pendant cet été, parce que Fofana, il est déjà courtisé par, je crois, le Milan AC, plus d'autres clubs. Il y a Saliba déjà qui s'en va. Bon, ça c'était déjà acté.
Fofana et Bouanga sont intransférables, les amis. Hein.
Ouais, mais je pense pas cette année.
Intransférables jusqu'à ce qu'on te donne une offre que tu peux pas refuser, parce que Saint-Etienne, financièrement, a dû souffrir aussi de la crise, comme beaucoup de clubs, entre guillemets, de ce niveau-là, d'un point de vue financier. Donc je pense quand même qu'ils peuvent pas faire non plus trop de folie. Et je pense qu'ils cracheront pas contre un billet de 30-40
millions.
Ouais,
mais l'avantage, c'est que ça arrivera pas cette année. Ça arrivera pas cette année et c'est la chance de Saint-Etienne.
Voilà, parce que si vous voulez, on a déjà perdu Saliba qui méritait, lui, cet enfant du Forest, de vraiment faire cette finale. Malheureusement, l'accord était acté avec Arsenal. Il est parti pour plus, ou 30 millions hors bonus. Je pense que voilà, c'est une erreur de la part du staff technique de Saint-Étienne, et cette erreur ne va pas se reproduire cette année.
Bon, c'est pas vraiment une erreur, c'est un budget dont Saint-Étienne a besoin, et tu peux pas garder ces joueurs-là éternellement, sachant que t'as pas vraiment de projet sportif à la hauteur de tous les autres clubs qui jouent l'Europe, quoi. Saint-Étienne,
bien sûr, mais
je sais très bien que ça ne sera jamais que, en tout cas tant que ça restera comme ça, un club qui joue des places respectables en Ligue 1, mais qui n'a aucune ambition européenne.
On est d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment Saliba aurait pu, dans son contrat, dire voilà, moi je refais une année avec Saint-Étienne pour m'aguerrir au plus haut niveau. Bon, on s'est compris, la Ligue 1 n'est pas le plus haut niveau, mais histoire de s'aguerrir en tant qu'homme déjà, de se perfectionner dans un groupe. Je pense que ça aurait été donnant-donnant à la fois pour Saint-Étienne et Arsenal.
Ok.
Eh bien écoute, merci Romain pour ton intervention, et puis on se retrouve bientôt sur RKS.
Eh bien, à bientôt à tous les amoureux du ballon rond.
Au plaisir. À bientôt.
Salut Romain.
Salut.
Eh ouais, c'est certainement une autre finale qu'on parlera la semaine prochaine avec la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. On va attaquer le dernier sujet, messieurs, qui me tient à cœur, parce que je peux vous dire que hier, 17h, 19h, j'étais devant ma télé pour suivre ce multiplex exceptionnel, puisqu'on va parler, messieurs, de la Première Ligue, tant cette folie sur la course à la Ligue des Champions, mais également sur les rétrocessions en Premiership, et également aussi sur la nommée du meilleur joueur, parce que ça fait énormément débat. Messieurs, hier, c'est simple, on le savait, Liverpool champion, City en Ligue des Champions, et c'est Chelsea qui allait grappiller avec Manchester United les places en Ligue des Champions, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y avait une confrontation entre Leicester et United.
Moi, je suis très partagé sur le bilan, parce que d'un côté, on a eu un très beau champion avec Liverpool, et un beau deuxième, parce que City fait quand même plus de 80 points aussi en tant que deuxième. Mais derrière, je trouve qu'il y a un grand écart qui est de plus en plus important entre ces deux clubs de City et de Liverpool, pardon, entre le reste. Il y a Manchester, Tottenham,
il y a un fossé.
Chelsea. Je trouve que le fossé n'était pas énorme sur les dernières saisons, mais qui se creuse de plus en plus.
Et il y a eu trois championnats cette année, dans un.
Ouais, et donc du coup, c'est vrai que Tottenham, Manchester United, Arsenal et Chelsea, pour moi, sont en train de prendre un gros retard. Et c'est des clubs qui n'ont pas vraiment bien joué cette saison. Donc c'est pour ça que sur le bilan de la Première Ligue, je suis un peu partagé, parce que j'aurais aimé voir le vrai United, le vrai Chelsea, le vrai Tottenham, le vrai Arsenal au meilleur de leur forme, pour pouvoir faire notre Big Five ou notre Big Six maintenant, parce que c'est plus un Big Six qu'un Big Five maintenant, un Big Four, pardon, le championnat anglais. Mais j'aurais aimé justement voir ça. Donc j'explique peut-être ça par l'arrivée notamment de jeunes entraîneurs qui débutent. Bon, Solskjaer, il est déjà là depuis pas très longtemps, mais il est quand même qu'au début de sa carrière. Lampard venait d'arriver, Arteta a récupéré les dégâts faits par Dracula, et sans oublier Mourinho et son jeu très stéréotypé défensif. Donc si on ajoute à ça le Covid, c'est tout de suite plus compliqué. Mais globalement, de toute façon, très peu de championnats ont été flamboyants cette saison. Donc je pense que c'est peut-être pas dramatique ce qui se passe en Première Ligue, mais il faut faire attention, et il faut en tout cas que c'est les clubs que j'ai cités réagissent.
Après, ce qu'on peut dire, hein, la satisfaction quand même qu'on peut avoir dans ce championnat, c'est que les 4 plus gros clubs sont aux 4 premières places.
Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. Sur la Première Ligue cette année, je rejoins Kevin sur le fait qu'il y avait plusieurs championnats dans le championnat. Il y a Liverpool, mais ça, Liverpool, on ne peut pas lui enlever. Liverpool a été au-dessus du lot,
oui,
et a été magique cette année. Donc, ils ont créé un fossé qui n'est pas, entre guillemets, la faute des autres clubs.
C'est grâce à
eux, et ça, on ne peut rien leur enlever. Là, par contre, je rejoins Kevin sur le fait de dire que l'écart entre City après et les autres est presque trop marqué. Il y avait vraiment 3 championnats. Il y avait
15 points, messieurs.
C'est incroyable, c'est énorme. Il y avait ce championnat qu'a fait Liverpool, course en tête, où on les voit maintenant champion quasiment à la mi-saison. Manchester City, qui de par son niveau a quand même mis des raclées, et en a mis une à Liverpool d'ailleurs aussi, et a su comme ça marquer l'avance par rapport à ses concurrents. Et derrière, quand tu regardes le nombre de points, tu parlais de 15 points d'écart, ça met bien en fait en lumière la saison en demi-teinte d'un Manchester qui peut éventuellement se faire un gros, mais derrière aller se faire ramasser contre la Lanterne Rouge. Et c'est assez triste en fait pour le championnat et pour son attractivité. Après, Manchester United a fait une super fin de saison, Je pense que c'est les grands gagnants de l'arrêt du championnat et de la reprise, parce que d'un point de vue comptable, je crois qu'ils sont quasiment champions d'ailleurs du deuxième championnat post-Covid. Et ils ont vraiment fait une remontée qui fait plaisir avec des joueurs en plus français. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Et je pense que c'est la belle histoire, entre guillemets, qu'ils arrivent à accrocher cette place européenne, même si j'aime pas énormément Manchester United pour plusieurs raisons ces dernières saisons. Mais voilà, en tout cas, ils ont mis les moyens pour y arriver et félicitations. Je suis content par contre pour Chelsea, avec notre petit Frenchie Giroud. On aime ou on n'aime pas, les gars, mais c'est incroyable. Il a été très très bon et il devient troisième meilleur buteur français de la Première Ligue, comme il est le troisième meilleur buteur français de l'équipe de France, en équipe de France. Les gars, Giroud, vous en pensez quoi? C'est quand même top.
Je connais un peu, oui, je respecte énormément, c'est énorme.
Un besogneux, quoi. Et même Lampard,
Je dirais même pas que c'est un besogneux, je dirais que c'est un exemple de professionnalisme. Ouais, comme a pu le dire Lampard, c'est voilà.
Lampard qui l'a poussé vers la sortie, hein, Lampard.
Oui, c'est pour ça que ça me fait rire. J'ai rien contre Giroud, pas du tout. Mais il est très gentil avec Lampard, Giroud aussi, parce que Lampard, s'il avait pu le pousser dehors,
ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
Dès qu'il arrive à Chelsea, il l'aurait fait. Finalement, il était bien content de l'avoir à la fin.
Il a fait son mea culpa devant la presse, Lampard, hein. Il a dit qu'il l'avait placardé et que derrière, il l'avait tellement bossé, il avait tellement défoncé la porte et qu'il était revenu par la fenêtre que il a été obligé de le faire jouer et qu'une fois qu'il a été sur le terrain, il a montré à tout le monde qu'il méritait sa place, quoi. Oui, Lampard a fait son mea culpa devant la presse.
Je suis sûr qu'il va le lourder cet été.
Je pense pas. Tu sais, le 20 mai, ils ont levé l'option de prolongation d'un an. Je pense pas.
En tout cas, il refera banquette alors.
Certainement. Messieurs, il y avait aussi un autre championnat, c'était celui pour la descente. Est-ce que vous avez suivi hier ou pas la journée?
Moi, pas trop.
Parce que franchement, c'était assez énorme. Il y avait West Ham, Aston Villa, Bournemouth et
Watford.
Ils ont perdu contre Arsenal. Ils reviennent à 3-2. Bournemouth met un but contre Song. C'était incroyable. J'ai envie qu'on mette aussi pour ça ce championnat en lumière. On le sait que c'est le plus riche, le plus réputé. Mais pour moi, c'est celui qui fait le plus envie de regarder le football.
Oui, c'est vrai.
On
est d'accord. On est d'accord.
On
va parler d'autre chose. C'est bien d'être.
Parce que c'est spectaculaire, parce que t'as des équipes qui jouent pour marquer le plus de buts possible, et c'est peut-être plus marqué sur ce championnat-là et le championnat d'Allemagne aussi, où t'as beaucoup de buts. Mais oui, c'est sûr. Moi, je suis
32 buts hier, sur la journée.
Ouais, et puis tout simplement, t'as un autre niveau. Quand tu regardes le 18e de Première Ligue, c'est pas le 18e de Ligue 1 ou de Serie A. Enfin, il y a aussi cet aspect-là.
C'est le 18e de National 1.
Quand tu vois le 18e de Première Ligue qui joue contre le 10e de Première Ligue, ça donne des affiches qui sont agréables à voir, parce que t'as un niveau qui peut, sur certains championnats, être en France sur un deuxième qui rencontre un sixième. C'est le même niveau en Première Ligue quand tu as le 18e qui rencontre le 16e. Et aujourd'hui, ça fait que tu peux te mettre devant tous les matchs en Première Ligue. Tu arriveras à prendre du plaisir, à avoir des buts spectaculaires et de belles actions.
Parce que tu as des petites équipes, entre guillemets, qui jouent le jeu aussi de jouer tous les matchs à fond.
Complètement.
Et de ne pas se dire, City aujourd'hui, j'ai pas envie. De toute façon, on va prendre une branlée. Donc, autant qu'on se la prenne et puis qu'on passe à autre chose tout de suite, quoi.
Deuxième petit scandale de cette Première Ligue, et moi franchement, quand je vois le match de De Bruyne hier qui a failli...
Alors scandale, tu donnes ton opinion déjà, si tu appelles ça un scandale.
Je donne mon opinion parce que vous savez que c'est Henderson qui a été nommé meilleur joueur de la Première Ligue. Juste derrière, c'est Kevin De Bruyne. Moi, quand je vois encore le match de De Bruyne hier avec un but, deux passes décisives, qui vient d'égaler le record de Thierry Henry sur 20 passes décisives dans la saison... je vous dis franchement, je peux pas comprendre, même si je me dis enfin un attaquant qui met pas que des buts, qui est récompensé, mais on peut pas laisser de côté De Bruyne, on peut pas le laisser de côté même Sadio Mané avec la saison qu'il a fait. Messieurs, moi je comprends pas cette...
La Première Ligue cultive ça souvent, de mettre des meilleurs joueurs au milieu de terrain. On l'avait vu avec Kanté, c'est pas la première fois, ils sont pas à leur coup d'essai. C'est vrai qu'eux, ils aiment bien mettre en lumière le milieu de terrain qui est un point clé en Première Ligue. Après, je suis d'accord avec toi, sincèrement, je ne peux pas te contredire, parce que De Bruyne, pour moi, il méritait plus d'avantages que ce titre que Henderson. Après, Henderson, c'est un élément clé d'un champion historique. Donc, tu peux le comprendre aussi, je veux dire, tu peux le défendre, même si, oui, si tu prends de manière individuelle et que tu compares De Bruyne avec Henderson, pour moi, il n'y a pas photo.
Oui, mais je trouve que c'est un beau message qui est envoyé à tous les amoureux du football. De dire que oui, il n'y a pas que les statistiques, il n'y a pas que les chiffres qui comptent, il y a aussi le comportement sur le terrain. Et je ne parle pas que de talent, je parle aussi de fair play, d'aura, de charisme, Et je trouve que c'est bien aussi qu'on mette en lumière des joueurs comme Anderson, qui sont des joueurs qui font pas de bruit, qui sont besogneux, qui travaillent sur le terrain, qui sont essentiels à leurs entraîneurs, comme Kanté a pu l'être aussi à Chelsea. Moi, je trouve que c'est un beau message. Bien évidemment qu'on sait que De Bruyne est meilleur, c'est pas le débat aujourd'hui, mais avec la saison que Liverpool fait, il fallait mettre un raid sur le trône, et je trouve que c'est...
Il y a Sané, il y a,
oui, il y a Mané, il y a Van Dijk, mais oui, mais...
Et quand est-ce qu'on met un gardien aussi, parce que franchement cette année si Liverpool est la meilleure Allison, défense du Big Five, et ben tu vois, je trouve
si,
ça
ils, ils peuvent, mais il y a déjà un titre de meilleur gardien, donc en fait ils feront pas doublon quoi.
Moi je trouve c'est une horreur, comme le ballon d'or de Fabio Cannavaro en 2006 que je comprenais pas du tout. Voilà, je comprends pourquoi Kevin se trouve ça normal, hein, pour Andersen, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais ça n'a rien à voir.
On a
j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est la... Non, moi ce que j'aimerais, c'est quand De Bruyne, il a quand même un profil qui est très particulier. C'est pas forcément un buteur, c'est un mec qui œuvre tant sur la récupération que sur la différence, que sur la rapidité, que sur les têtes. C'est un joueur complet. C'est pas un buteur comme Mossala ou comme Sadio Mané. C'est différent, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre.
Ouais, mais regarde, je vais te donner un autre exemple. Quand tu vois le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde et que tu vois Modric qui est élu, moi, ça m'a fait mal au cœur quand tu vois les joueurs français comme Mbappé ou d'autres, Griezmann, et quand tu vois ce qu'ils ont pu faire au travers de cette Coupe du Monde, d'avoir un vice-champion du monde sacré meilleur joueur. Modric, il a fait une jolie Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, il ne le méritait pas. Et je pense que si demain De Bruyne était élu meilleur joueur après une saison comme a pu faire Liverpool, tout le monde aurait crié au scandale en disant « Ah, attends, pourquoi c'est pas un joueur de Liverpool qui est mis ?» Donc, du moment où ils prennent cette décision, entre guillemets, de mettre un joueur de Liverpool, pour moi, il y a un double débat. C'est est-ce qu'il fallait absolument mettre un joueur de Liverpool comme meilleur joueur, étant donné la saison stratosphérique qu'ils font ? Moi, je dis oui. Est-ce que Henderson était celui qui représente le mieux cette réussite ? Pour moi, non. Et dans ces cas-là, s'il fallait choisir un joueur de l'effectif de Liverpool, j'en aurais pris un autre.
Bon, eh ben écoutez messieurs, on va clôturer là-dessus, sur cette page. On va faire une petite pause musicale afin de préparer mes deux compères pour
on va faire des pompes dans le studio.
Le questionnaire qui arrive tout de suite, à tout de suite dans le RKS Full Time Show.
Go to sleep when I got you next to me.
Le Foot Time Show pour la fin de l'émission avec notre monsieur
quiz.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui,
faudrait qu'on mette un jingle.
Ouais,
un jingle
c'est vrai, c'est vrai, exactement. Faudrait mettre un jingle quiz. On va demander à Jérôme qui nous concocte ça. Aujourd'hui, s'affrontent le petit canari, le gros poussin et
le champion en titre. Présente-moi comme tel.
Non, c'est Kevin qui a gagné.
Vous rigolez la semaine dernière, mais les gars.
Non, mais c'est toi qui as perdu contre lui.
C'est moi. Ouais, on voit qu'il était en vacances.
J'ai deux victoires, donc c'est moi le champion.
C'est moi.
Pour l'instant, celui qui est en tête. Messieurs, allez, on va commencer.
Le plus titré contre le champion en titre. Merci.
Sans plus attendre, messieurs, on va commencer par qui a dit.
Oh putain.
Attention.
Vas-y.
Je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. Est-ce que t'as déjà vu un facteur sauter de joie
Zlatan.
Quand il vient livrer un colis? Ça aurait pu être Zlatan Ibrahimovic, mais c'est pas Zlatan Ibrahimovic.
Il joue encore?
Il joue encore. C'est un joueur qui joue encore, qui est pour moi loin...
Balotelli.
Mario Balotelli.
Balotelli qui est un grand copain de Zlatan Ibrahimovic. Donc vous regarderez les gars, Balotelli admiratif de Zlatan, Zlatan admiratif de Balotelli. Balotelli parle de Zlatan comme de son père spirituel, sportif, footballistique. Vous regarderez.
Ouais, bah entre boulards. Hein.
Bref, voilà, ça fait boulard, un zéro c'est et c'est
un
l'essentiel.
Un zéro pour Pierrot. Deuxième, c'est un qui suis-je.
Ouais.
Alors attention, il a été entraîné par Carlo Ancelotti,
Pirlo,
Van Gaal et Mourinho.
Ouais.
D'accord. J'ai joué avec Diego Forlan et Edinson Cavani. J'ai gagné la Ligue des Champions.
Suarez.
J'ai joué avec Balotelli, mais pas Nasri. D'accord. Et j'ai remporté 28 trophées en club. Qui suis-je, messieurs?
Attends, t'as dit entraîné par
Ancelotti, Van Gaal et Mourinho.
Van Gaal et Mourinho. Stankovic.
Non.
Non.
Il faut aller chercher loin, c'est un joueur italien.
Costa Curta.
Non. Un joueur italien d'actualité qui est passé par la France.
Vieri, non.
Non, pas Cristiano Vieri, il n'est pas passé par la France.
Est-ce que si, Vieri, c'est à Monaco.
À Monaco, oui. Ah, effectivement, bien, très très bien. Il a joué au Paris Saint-Germain.
Simone, non.
Non, il a été entraîneur au Paris Saint-Germain.
Thiago Motta.
Thiago Motta.
Je savais pas que Thiago Motta avait été entraîné par Mourinho.
Se fait bouffer.
Il a joué avec Diego Forlan. Il a joué
avec Diego Forlan.
Ah ouais. Quel club?
Au début de sa carrière. Enfin, je ressorte le. Ouais, ouais. Non, alors j'étais très surpris moi aussi. Je suis quand même tout regardé. Mais effectivement, c'est assez incroyable. Thiago Motta, en tout cas, un partout, messieurs. Attention, deuxième. Qui qu'a dit? Très court, très simple. Pour s'améliorer, il faut s'ennuyer. C'est un coach qui a dit ça.
Bielsa?
Non. Marcelo Bielsa.
C'est Bielsa?
C'est Marcelo Bielsa.
Mais non.
Incroyable. Incroyable. Alors là.
Moi je pense que ça ressemblait plus à du Laurent Blanc ça. Il passe sa vie à se faire chier lui.
Et bah en fait c'est pour ça, parce que moi aussi je suis comme toi.
Non mais j'étais persuadé que j'allais dire Laurent Blanc quoi. Quand il a dit Bielsa.
Quand j'ai mis le point direct.
Non mais quand il a dit Bielsa, j'ai voulu lui dire non mais sois sérieux, c'est bah ouais, Laurent Blanc.
Aussi, mais non, c'est bien Marcelo Bielsa.
Mais il sait faire une phrase lui.
La equipo deve amouillar del maillot para progresar.
Allez, 2-1 pour Kevin. Messieurs, cette fois-ci, on recherche un club.
Ouais.
Record d'invincibilité sur une saison.
Real Madrid.
Milan AC.
Avec 32 matchs sans défaite d'affilée.
Paris Saint-Germain.
Non.
Dans le championnat de France, effectivement, ce n'est pas le Paris Saint-Germain.
Lyon.
Monaco.
Record d'invincibilité. D'invincibilité sur une saison. 32 matchs.
Montpellier.
Lors du championnat. 1994.
Nantes. Ah oui.
Il donne des trucs de Nantes.
Papa. Ah bah quand t'as dit 1990.
Il a le maillot aujourd'hui du FC.
Ah oui.
Il égalise avant la question finale. Deux partout.
Merci
les supporters de la Beaujoire qui sont derrière.
La Brigade Noire.
Oh que c'est beau. Que c'est beau. Messieurs, c'est magnifique. Ah, il appuie sur tout, voilà. Du coup, Kevin, il se censure, il appuie sur tout.
Tenez-le.
Ah, c'est beau. Et ouais, le FC Nantes, 32 victoires d'affilée. Le Paris Saint-Germain a le record de victoires sur un championnat et d'invincibilité sur un championnat et non pas d'affilée.
Oui,
d'accord.
Voilà. Ils avaient failli le battre il y a quelques
années. Ils avaient failli le battre complètement lors de 2018-2019. Messieurs, la dernière, et je peux vous dire que c'est la plus difficile.
Oh putain.
La plus difficile.
Attends, il est vivant ou pas?
Non, tais-toi.
C'est un lieu.
C'est un lieu. C'est un lieu. Il est vivant alors.
Il y a depuis Pompéi. Il y a depuis quelques années, d'accord, une élection qui a lieu. C'est l'élection du plus beau vestiaire du monde.
Non, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher ?
Ouais, mais il faut s'intéresser.
C'est le Camp Nou.
Le plus beau vestiaire du monde, d'accord.
C'est le Barça normalement.
Non, ce n'est pas le Barça. Non. Il est donc sur plusieurs critères, sur la grandeur, sur la qualité des sièges, la mise en lumière, mais également les moyens qu'il y a à l'intérieur. Mais maintenant, pour vous aider à trouver, c'est un club européen qui détient ce vestiaire.
Le Milan ?
Non.
Le Real ?
Non plus. C'est un club qui a pour, on va dire, oui, qui a pour raison de vivre que pour ses supporters, qui savent bien mettre le feu dans les tribunes.
Dortmund ?
Non. On est sur un club...
Le Zénith.
Saint-Étienne.
Alors, on se rapproche un petit peu. On est plus sur un club proche de la Méditerranée. Voilà, je vous donne un autre indice. Qui porte les couleurs rouge et blanche. D'accord. Qui est très connu...
Galatasaray.
On n'est pas loin. On se rapproche petit à petit. Qui est très connu dans son pays.
Monaco ?
Non.
Mais rouge et blanc.
Attends, la Méditerranée.
Il parle de vestiaire. Mais il y a pas de jeu, il y a trop de joueurs dedans.
Monaco, faut savoir que Monaco est dans le top 10 des vestiaires. Ah,
voilà. Non.
Ils ont pas de stade.
Ah, tais-toi maintenant.
Attention, je vais vous donner un indice crucial. C'est en Grèce.
Le Panathinaikos.
Non, ce n'est pas le Panathinaikos. C'est en Grèce, couleur rouge et blanc.
Mais je sais plus.
L'Olympiakos.
Al Estadio Georgios Karekakis. Victoire de Pierre 3-2. On va vous mettre l'image sur les réseaux sociaux. C'est un vestiaire qui est magnifique, avec des sièges baquets. Il est superbe, ce vestiaire.
Intérieur cuir. 130 chevaux.
Kit Polini avec Pomomo. Messieurs, victoire de Pierre. Et ça tombe bien, parce que c'est toi qui vas préparer du coup le quiz pour la semaine
comme
prochaine.
Comme ça, je peux repasser devant.
Deux victoires de suite. Devant.
Moi, je risque pas d'aller bien loin, parce que j'ai zéro point de manière. C'est pas un problème.
Messieurs, mais tu donneras les bouteilles, c'est pas grave.
Exactement. Messieurs, c'est encore une belle émission qui se clôture en votre compagnie.
Parfait.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h, sur RKS. Le lundi. On n'oublie pas aussi de réagir sur Facebook et sur Insta, nous donner des idées de sujets, réagir sur ce que vous voulez. Et n'hésitez pas même, si vous êtes supporter d'un club, on vous prendra l'antenne.
Et les podcasts.
Pour ceux qui ne peuvent pas
nous écouter en direct.
Avec grand plaisir, Kevin, Pierre.
Podcast d'ailleurs sur Kevin.
Podcast sur la Spotify, Deezer et l'application Radio RKS.
Et bientôt sur TF1, YouTube, MediaPro et sur toutes les radios.
Et ouais, bien sûr.
Allez. Bisous.
Allez,
ciao,
à
plus.
À la semaine prochaine. Bye.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.